Faudra que ton angoisse disparaisse si se passe. Voilà l'intraveineuse, la solution à cause. C'est ça la médecine, je veux la guillotine. C'est ça la médecine, je veux la guillotine. C'est ça la médecine, je veux la guillotine. C'est ça la médecine.
Radio Libertaire 89,4, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité de la Fédération anarchiste. C'est l'entonnoir, émission critique de la psychiatrie, et nous sommes encore une fois aujourd'hui avec, en compagnie de Sylvie du groupe Libertaire d'Ivry.
Voilà. Est-ce qu'on peut, avant de commencer, est-ce que je peux faire l'annonce à la limite, si tu veux la lire sur l'ordinateur, puisque ça te concerne aussi, puisqu'on fait un débat à la librairie Publico, en partenariat avec Denis et avec l'émission L'Entonnoir. Ce sera le 22 février, donc c'est pas ce dimanche-là, c'est celui d'après. Donc à la librairie Publico, 145 rue Amelot, métro Oberkampf, feu République Fille du Calvaire. Ce sera la projection sera à partir de 16h environ et accueil dès 15h. Et donc on fera une projection et après ça, Denis fera une présentation de l'émission L'Entonnoir et après on discutera tous ensemble, tranquillou. Voilà. Donc tu peux présenter le
débat. Tu as tout dit, donc
le débat.
Non, parce que l'ordinateur n'est pas encore allumé. Alors déjà on en a dit pas mal, peut-être que
Oui, bon, je tiens quand même à prévenir pour ceux qui sont vraiment, enfin, c'est pas un film qui fait peur à proprement parler, mais pour ceux qui supportent pas une goutte de sang, c'est pas ce qu'il y a de plus gore, mais c'est pas non plus ce qu'il y a de, c'est pas non plus ici impératrice, oui. Hein, je veux dire, c'est un film pour les amateurs de fantastique et d'épouvante, c'est Cabale de Clive Barker. Clive Barker, qui est l'auteur qui est connu surtout pour avoir fait la série des Hellraiser, et qui est à la fois un écrivain et qui a mis en scène lui-même ses films. Et ce film est pas, donc, est moins connu que Hellraiser, mais le pitch j'ai pas vu de film qui soit autant en rapport avec la critique de la psychiatrie que ce film là. C'est un film fantastique, hein. Ça y est, tu l'as sous les yeux?
Non, toujours pas.
Donc voilà, et donc en ce qui concerne la présentation de L'Entonnoir, bah ma foi, c'est ce qui se trouve officiellement à la page de L'Entonnoir sur anarchiste.info,
par oui exemple. Et qu'on vous lit parfois à l'antenne le mercredi.
Voilà. Donc ben écoute, ça sera peut-être, puisque tu n'arrives pas à l'avoir, ben ce sera pour une prochaine fois, pour peut-être à la fin de l'émission.
Oui, on va dire,
on
ça
racontera
à la fin de l'émission.
L'histoire.
Donc je reviens au studio pour pour parler au micro et de Martin Winkler et des Brutes en Blanc, le livre qui alerte sur les maltraitances médicales. La vocation des médecins est de soigner, guérir parfois, soulager souvent, consoler toujours. Alors pourquoi certains médecins sont-ils maltraitants? Discrimination, jugement de valeur, violence verbale et physique, gestes imposés ou archaïques. Ces Brutes en Blanc enfreignent la déontologie et la loi. Martin Winkler décrit ici les rouages de la maltraitance médicale et les moyens de s'en protéger. Voilà, donc c'est un livre qui date de 2016. Et voilà. Et donc on en est presque à la fin du livre qu'on a lu semaine après semaine.
Et il y en a eu des émissions sur ce livre.
Oui.
On n'est pas toujours, donc pour préciser le contexte dans lequel on commande ce livre, en tout cas moi et toi aussi, des fois ça arrive, on n'est pas toujours d'accord avec tout ce qu'il dit,
oui.
Mais c'est toujours intéressant et ça part, je pense, d'un bon sentiment. Et puis, contrairement à ce que peuvent être et faire pas mal de médecins, justement, et c'est toujours très stimulant. Et en plus, on va dire un peu banalement, on est tous concernés. Qui n'a jamais été confronté à un médecin et même à un médecin maltraitant psychologiquement, voire physiquement. Hein, c'est vrai. Et donc, je précise aussi qu'on découvre le livre en même temps que vous. Moi, je sais pas du tout même de quoi va parler le chapitre d'aujourd'hui. Toi, oui, peut-être, t'as jeté un coup d'œil.
Ben là, non, pas du tout, en fait, cette fois-ci. Et je sais qu'on est toujours dans la troisième partie, qui s'intitule « La fabrique des brutes en blanc », c'est-à-dire qu'on parle aussi de la formation des médecins, des écoles, et puis de l'évolution donc du cursus médical. Enfin, voilà. Et donc on est à un sous-chapitre intitulé « Harcèlement et délit d'initié à tous les étages ». La structure de caste entre guillemets, du milieu hospitalo-universitaire français a été mise en lumière de manière spectaculaire et dramatique lorsque, en décembre 2015, le professeur Jean-Louis Ménien s'est jeté par la fenêtre de son bureau au 7e étage de l'hôpital Georges Pompidou. Le harcèlement dont il faisait l'objet durait depuis de nombreux mois. L'enquête préliminaire pointait du doigt deux facteurs favorisants, une direction autoritaire et des luttes de pouvoir entre chefs de service. Et tout cela ne datait pas d'hier, car l'intelligentsia médicale n'œuvre pas en circuit fermé. Elle infiltre aussi les plus hautes instances décisionnelles. Comme le rappelait l'hebdomadaire Marianne dans un article du 19 janvier 2016, avant même que l'établissement sorte de terre, les blouses blanches ont obtenu des pouvoirs publics qui l'érigent à Paris et non dans sa banlieue, qui en avait pourtant plus besoin. Quand il s'est agi de nommer les premiers chefs de service de cet hôpital convoité, le directeur n'a pas eu son mot à dire. J'ai eu la main sur l'organisation et le management, mais pas sur le choix des médecins, se souvient Louis Omnes à la barre du paquebot de 1991 à 2003. Le regroupement de trois hôpitaux au sein de l'HEGP, l'hôpital européen Georges Pompidou, suppose des suppressions de postes pour éviter les doublons. Pas un médecin n'en fera les frais. En biologie, par exemple, on a réduit de 130 les emplois non médicaux. On pouvait gagner 20 postes de biologiste. Pas un n'a été touché. 12 ans plus tard, alors que l'APHP taille dans le vif, il y a toujours une dizaine de docteurs en trop, entre guillemets, à l'HEGP. C'était l'extrait de l'article dans Marianne. Autre caractéristique des médecins les mieux placés dans la pyramide, ce sont les, entre guillemets, initiés. Ils disposent parfois d'informations confidentielles et ils sont en mesure d'en profiter. Le 3 novembre 2010, dans le Nouvel Observateur, François Krug signe l'article suivant. Étrange mélange des genres entre médecine et finance. Un spécialiste français de l'hépatite C conseillait à la fois un laboratoire testant un nouveau médicament et des fonds d'investissement spécialisés dans la santé. Les informations confidentielles qu'il leur a fournies leur auraient permis d'éviter de lourdes pertes en bourse. À l'origine de l'affaire, l'albuféron, un médicament contre l'hépatite C, testé par le laboratoire HGSI, Human Genome Science Incorporation. Yves Benamou appartenait au comité d'évaluation de l'albuféron et connaissait donc les résultats des tests confidentiels menés par HGSI. HGSI est coté au Nasdaq. Les résultats des tests ont un impact direct.
C'est quoi sur... le Nasdaq ?
C'est un indice, de... c'est comme le CAC 40, le truc comme ça.
Ah d'accord. C'est...
Les résultats des tests ont un impact direct sur son cours de bourse. Fin 2007, justement, ces résultats ne sont pas brillants. La mise sur le marché de l'Albuferon est compromise. HGSI l'annonce officiellement fin janvier 2008 et le cours de son action s'effondre immédiatement de 44%. La SEC, SEC, l'autorité des marchés financiers, est intriguée. Dans les semaines ayant précédé l'annonce, six hedge funds spécialisés dans la santé ont revendu toutes leurs actions HGSI. S'ils les avaient conservées, ils auraient perdu 30 millions de dollars. L'enquête de la SEC révélera que ces fonds ont ensuite racheté des actions HGSI à moitié prix. Yves Benamou était justement consultant pour la société gérant ces six hedge funds.
Juste une parenthèse, c'est que ça rappelle, on peut peut-être rappeler les références d'un livre qu'on a lu également en entier sur les collusions, entre tout ce qu'il pouvait y avoir comme ça, comme scandales médicaux, mais à la fois financiers et médicaux. Tu peux peut-être rappeler les références du livre. On l'avait déjà lu en entier avant, tu t'en souviens?
C'est vrai, les vendeurs de maladies.
Les inventeurs de maladies. Voilà, mais en revanche, c'est un livre, on peut le conseiller parce que sur le sujet, il est quand même assez complet. Cela dit, il n'est trouvable que sur Internet, quoi. Il est épuisé, mais on peut le trouver par correspondance.
Et par l'intermédiaire d'un GAFAM, par exemple, non ?
De quoi ?
Par l'intermédiaire d'un GAFAM.
C'est quoi ?
C'est les Google, Amazon, machin truc.
Ah oui, d'accord. Ouais. Enfin, en tout cas, vous pouvez aussi tout simplement, si vous voulez pas claquer une thune, vous pouvez simplement aller sur anarchiste.info, par exemple, qui met en ligne toutes les, enfin, qui premièrement un podcast de la radio, mais aussi qui met systématiquement en ligne les émissions L'Entonnoir, et vous trouverez le livre en entier avec les commentaires de l'émission L'Entonnoir. Donc sur les inventeurs, enfin avec l'intitulé Les inventeurs de maladies. Ça date de quelques semaines, mois peut-être.
Hein. Oui, deux mois plus.
Deux mois plus, deux mois, mais ça peut se retrouver facilement, je pense. Voilà.
Sous-chapitre suivant de Les bruitants blancs de Martin Winkler, liaison fatale, médecins et mandats électoraux. En 2014, 349 médecins et 11 chirurgiens étaient maires d'une commune de France. En 2016, 23 médecins et 2 chirurgiens sont députés. Comme ces chiffres le montrent, dans l'esprit des professionnels de santé et des électeurs, la direction des affaires publiques s'accorde parfaitement avec l'activité médicale. Je pense tout le contraire, et voici pourquoi. Devenir maire ou conseiller municipal, et a fortiori membre de l'Assemblée nationale, c'est acquérir un pouvoir exorbitant qui contrevient en tout point avec l'éthique. Cela augmente en effet l'ascendant initial exercé par les médecins sur les patients. Alors que, nous l'avons dit dès le début de ce livre, le soin est incompatible avec une relation de pouvoir. Un médecin qui se présente à un mandat électoral bénéficie d'un préjugé favorable bien supérieur à celui que l'on porte à, mettons, un candidat artisan, fonctionnaire, infirmière ou professeur de collège. La notoriété du médecin et son aura, entre guillemets, lui confèrent un avantage qui n'a rien de démocratique, et un poste d'élu protège durablement. Être médecin et assumer une fonction d'élu est clairement une tromperie. On ne peut pas soigner au jour le jour des personnes dans un cadre privé tout en dirigeant des affaires publiques. À mon sens, ce cumul sera inévitablement mauvais pour les deux activités.
Excuse-moi, je vais jouer l'anarchiste de service, mais enfin, ben ouais, ce
on
serait.
Est là pour ça.
Enfin, oui, voilà. Un peu. Je vois pas. Comment dire, mon objectif politique n'est sûrement pas de faire que les élus puissent exercer efficacement leur activité, j'irais pas jusqu'à dire que un bon élu est un élu mort, mais enfin un bon élu est un élu qui n'est pas un élu, quoi. Il y a pas de bons élus et c'est tout. Quand on est anarchiste, on cherche pas à aménager ça. C'est pas la première fois. Quand il fait ce type de commentaire, l'auteur, on voit quelle est son obédience. Ouais. Voilà. C'est-à-dire que il est pour des bons. Par exemple, il est pour la loi. Il le dit même en quatrième de couve. C'est contre la loi. Il le dit à plusieurs reprises. C'est contre la loi. Oui. Nous, on confond pas légal et moral déjà. Mais quand il fait ce type de commentaire, il fait partie des gens qui pensent qu'il faudrait des élus efficaces, honnêtes et tout, et donc des bons chefs, quoi. Or, on va dire, pour paraphraser ce que disait GB dans la BD L'An 01, on voit un mec à la tribune dans la BD qui dit nous voulons des hommes politiques qui soient honnêtes, qui fassent bien leur boulot et tout, et là on voit la foule qui dit non, on ne veut pas de chef du tout. Ça résume notre position, mais c'est clairement pas la sienne. Et des gens qui voudraient la bonne gauche, pouvoir trouver quelque part l'équivalent du prince charmant en matière d'hommes politiques, il y en a malheureusement énormément, mais c'est toujours bien qu'on signale qu'on veut pas, voilà, c'est comme dans la BD de GB, c'est toujours la même référence BD, mais désolé, mais c'est ça, quoi. On veut pas d'hommes politiques du tout. Donc ce type de remarque, je trouve ça, s'il avait dit tu peux pas faire, il faut que tu te consacres entièrement à la médecine, parce que finalement c'est ça aussi qu'il veut dire, tu te dis après tout il a le droit de passer du temps à faire autre chose quand même, d'avoir des loisirs ou je sais pas, mais cette remarque-là montre bien quand même quelle est sa position. Je dirais, il doit en pincer pour une bonne gauche, quoi.
Oui, certes. En même temps, je ne sais pas. Quand il dit que le soin n'est pas compatible avec le pouvoir, il y a peut-être une légère critique du pouvoir.
Si tu t'arrêtes là, oui. Mais si tu parles, tu t'en tiens à la phrase suivante, ouais. Tu dis, il peut être efficace dans aucun des deux domaines. Ça, c'est pas un truc que j'aurais dit, par exemple. Tu vois ce que je veux dire. Oui. Voilà.
Alors, on va savoir pourquoi donc ce cumul sera inévitablement mauvais pour les deux activités.
Oui.
Car le médecin sait sur les personnes des choses que l'élu ne devrait pas savoir, et inversement. Mmh. Il n'est pas un simple citoyen, mais un détenteur de secrets parfois extrêmement gênants pour ceux qu'il côtoie. En tant que médecin, il n'a pas le droit de les utiliser, mais ceux qui le croiseront en tant qu'élu peuvent redouter, à tort ou à raison, qu'il s'en serve. Bref, le seul qui bénéficie vraiment de la situation, c'est le médecin. Quiconque prétend le contraire est aveugle ou manque singulièrement de bon sens. Mmh. Un chirurgien élu à une grande mairie ne soignera tout simplement plus les mêmes patients qu'avant. Et son statut sera source de lourds conflits d'intérêts dans les décisions concernant l'hôpital public dont sa ville est la gérante et la clinique dont il est l'un des associés, sans parler des marchés publics. Un médecin devenu député sera sollicité par des groupes de pression et des lobbies qui ne seraient jamais venus le voir lorsqu'il n'avait pas ce statut. Veut-on vraiment qu'un cancérologue dont les recherches cliniques sont financées ou encouragées par un industriel devienne représentant du peuple et législateur ? Est-il la même chose que tout à l'heure.
Voilà.
Est-il impossible de voir à quel point cette situation est moralement problématique ? Veut-on réellement nous faire croire que, parce qu'il s'agit d'un cancérologue, d'un gynécologue ou d'un radiologue respecté par ses pairs, la probité d'un député ou d'un sénateur est assurée ? Alors en fait, en plus, nous, on a eu beaucoup de ministres qui étaient médecins, en fait.
Ah oui ?
Je crois, il me semble. Déjà, un ministre de la Santé. En France, un certain nombre de personnes, cadres de la police, militaires de carrière, préfets, magistrats, ne sont pas éligibles précisément parce que les conflits d'intérêts sont évidents. Les médecins ne devraient pas l'être non plus. Ils sont censés soigner toute la population et non la diriger ou imposer leur idéologie politique ou morale. Car ce ne sont pas des saints et, comme on l'a vu, cela peut être nocif dans l'enceinte d'un cabinet privé. Le risque n'est pas moins grand dans un conseil municipal ou dans l'hémicycle.
Ça ramène pas. En revanche, ça ramène. Enfin, évidemment, moi, je maintiens la critique du pouvoir, que ce soit par un médecin ou par n'importe qui. Mais je veux dire, malgré tout, il y avait un truc qui pouvait être pire quand un médecin a la double casquette. Et ça, c'est dans le livre Les inventeurs de maladies que c'était bien démontré, parce que ils avaient des. Enfin, ils étaient censés être des observateurs neutres et tout par rapport à des médicaments, alors qu'en réalité, ils avaient effectivement la double casquette, donc ils avaient des intérêts, par exemple, effectivement financiers ou politiques, par rapport au fait d'autoriser tel ou tel médicament craignos ou ne pas l'enlever du marché. C'était bien démontré, je trouve, dans le livre. C'est vraiment un bon livre, hein, Les inventeurs. C'est pareil, on n'était pas d'accord avec tout, mais franchement, déjà, ne serait-ce que factuellement, ça t'en apprend des belles, hein, quand même.
Alors, chapitre 4 de la troisième partie, l'enseignement maltraitant. En 2004, dans mon roman Les Trois Médecins, j'ai repris la trame des Trois Mousquetaires pour conter l'épopée d'une poignée d'étudiants en médecine pendant les années 70. C'est une transposition fidèle qui respecte tous les morceaux de bravoure du roman de Dumas et donne à ses personnages principaux des alter-ego dans l'organigramme de la faculté. Le professeur Fissinger, Louis XIII, est le doyen. Le vice-doyen, le riche, Richelieu, professeur de gynécologie obstétrique, a pour assistant les docteurs Hoffman, Milady, et Budd, Rochefort, et parraine les internes en chirurgie, les gardes du cardinal. Son adversaire, le professeur Vargas, monsieur de Tréville, chaperonne les étudiants voués à la médecine générale, parmi lesquels Bruno Saxe, D'Artagnan, et ses amis André, Aramis, Basile, Porthos et Christophe, Athos. Interrogé à la sortie du livre par un membre de la Société des Amis d'Alexandre Dumas, je l'entendis s'étonner. « Comment avez-vous fait pour transposer les Trois Mousquetaires de manière aussi réussie ?» Après avoir réfléchi quelques secondes, je me suis surpris à répondre « Au fond, c'était très simple. CHU et faculté de médecine sont structurés comme la France de Louis XIII. Comme je l'ai évoqué plus haut, la hiérarchie sociale, intellectuelle et morale du monde médical français ne fait que reproduire celle de la société française. Cette dernière peut être représentée symboliquement sous la forme d'une pyramide d'activité et d'influence, et à l'intérieur de ces sphères se trouvent des sphères plus petites constituées par des castes professionnelles ou d'intérêts, les avocats, les médecins, les chefs d'entreprise, les énarques. Les sphères supérieures sont les centres de pouvoir politique et économique. Dans un pays aussi centralisé et hiérarchisé que la France, statut, pouvoir et influence sont étroitement liés à l'implantation géographique. La sphère la plus élevée se trouve à Paris. Les sphères situées juste en dessous sont les grandes villes de province, Lille, Strasbourg, Lyon, Marseille, Toulouse. Les sphères du sommet sont presque hermétiques. Il est quasiment impossible d'y accéder si on est né dans une sphère située en dessous, sauf si quelqu'un qui s'y trouve déjà vous y fait pénétrer. Et si tel est le cas, vous resterez éternellement son débiteur. À mesure qu'on s'approche du sommet, les sphères deviennent de plus en plus petites. Seuls les membres des castes les plus favorisés peuvent s'y côtoyer et évoluer à leur guise. À mesure que l'on se rapproche de la base, le pouvoir et l'influence diminuent, les moyens également, et la pression des sphères supérieures ne fait qu'augmenter. Il en va exactement de même dans un CHU. Voilà, donc on a un schéma, un dessin représentatif de la société. Dans tous les pays du monde, un médecin, avant même de délivrer des soins, est perché sur son piédestal personnel, grâce le plus souvent à ses origines sociales. Un piédestal visible par toutes et tous. Cette position de supériorité symbolique le pare de qualités intrinsèques, entre guillemets. Le respect inspire la confiance, la confiance est source de réassurance et d'effet placebo. Il lui confère aussi un ascendant redoutable. Dans de nombreux pays, l'enseignement et la formation éthique quasi inexistante en France, incite vivement les praticiens à voir ce piédestal comme contraire à la bonne délivrance des soins et les exhorte à ne pas se percher dessus. En France, le piédestal est inclus dans la panoplie du médecin et sa hauteur s'élève avec le statut et la position hospitalo-universitaire. De sorte que l'asymétrie fonctionnelle de la relation du soin se double très souvent d'une asymétrie sociale visible et même revendiquée. Ce piédestal et l'ascendant qu'il pérennise, nombre de médecins français en ignorent ou en nient l'existence. D'autres le revendiquent comme un droit indisputable. Très peu sont prêts à reconnaître qu'il s'agit d'une position incompatible par sa nature même avec l'échange horizontal coopératif que nécessite la délivrance des soins. Certains usent, voire abusent, de cette ascendance sans que cela suscite en eux le moindre dilemme. D'autres, et ils sont nombreux, en ont douloureusement conscience. Mais lorsqu'ils s'efforcent de se comporter autrement, ils se heurtent souvent au même type de réaction de la part de leurs aînés ou de leurs confrères. « Mais comment peux-tu soigner correctement des patients qui ne se plient pas à tes instructions ?» Le paternalisme médical est une logique qui se mord la queue et qui ne veut pas en démordre. Au début des années 2000, j'ai été invité à donner une conférence à l'Université libre d'Amsterdam. Mon hôte, professeur de médecine interne, m'invita à participer à une réunion de synthèse avec les internes qu'il supervisait. Ils venaient des quatre coins des Pays-Bas, une fois par trimestre, échanger sur les situations difficiles qu'ils avaient rencontrées. L'un d'eux raconta qu'il avait observé de la part de son chef de service des comportements contraires à l'éthique, en particulier dans la manière dont il faisait pression sur des patients, pour qu'ils acceptent un traitement. Mon hôte m'expliqua ensuite qu'un membre de la faculté rencontrerait ce chef de service et que si ce praticien n'amendait pas son comportement, il n'aurait plus le droit de superviser des internes, que son service perdrait ses financements de recherche et que sa nomination pourrait être révoquée. Je lui demandai s'il ne craignait pas des représailles sur l'interne qui avait rapporté son comportement. Il me répondit que s'il y en avait, les conséquences pour le médecin seraient encore plus sévères et tout le monde le saurait. Tout cela relève du simple bon sens. On ne peut pas apprendre à soigner quand on est maltraité. On ne peut pas apprendre à respecter quand on est soi-même traité par le mépris. On ne peut pas apprendre le travail en commun quand un petit nombre de praticiens laisse entendre que certains soignants valent moins que les autres.
J'ai quand même peut-être une petite remarque à faire par rapport à cette façon de voir. J'ai quand même tendance à penser que c'est en amont que tu as en toi, que ça a été appris ou tout simplement que c'est comme ça que tu es, que tu as du respect. Enfin, ce côté ah bah c'est pas de leur faute, ils ont été eux-mêmes maltraités. Normalement, ça remonte à quand même plus vieux, que t'aies une capacité à être avec les autres, à respecter les autres et tout. C'est pas tout d'un coup, t'arrives à l'école de médecine et puis jusque là t'étais une espèce de page vierge et on va t'apprendre à respecter. Enfin, je veux dire, je pense quand même que c'est un truc qui remonte, qui est plus profond que ça. Et je trouve que c'est un peu facile de prétendre que c'est parce que t'as été mal, enfin, les gens maltraités, même d'ailleurs dans l'enfance, deviennent pas tous, par enfin des gens maltraitants, oui, tu vois. Je trouve que c'est un petit peu lapidaire comme diagnostic psy, on va dire, de prétendre que ça remonterait au fait qu'ils ont été maltraités en tant qu'internes ou étudiants, alors que en général, quand t'arrives à être étudiant, t'as déjà une personnalité un petit peu constituée, et si t'es un salopard, ben ça remonte déjà un petit moment, tu deviens pas brusquement un salopard parce qu'on t'a traité comme de la merde. Et en général, si t'as une capacité à avoir un peu d'empathie, elle s'envole pas parce que quelqu'un te traite mal. Donc je trouve que ça fait un petit peu diagnostic à l'arrache de dire que ce serait ça qui ferait que des gens, que des médecins deviendraient maltraitants.
Une psychologisation quelque part.
Oui, et puis vraiment un petit peu à l'arrache, parce que oui. si tu te fies simplement, enfin ce que je dis là, c'est juste un constat. Enfin, je veux dire que t'attends pas d'avoir 20 ans pour être un connard ou pour être quelqu'un qui au contraire est sensible aux autres. Tu vois que tu puisses être effectivement devenir pas. En revanche, que tu puisses devenir un peu un peu plus insensible parce que faut que tu te protèges, tu peux plus facilement le comprendre, mais tout d'un coup, quelqu'un te traite mal et te vlatit pas que tu deviens maltraitant à ton tour, ça franchement, je demande, surtout quand c'est pas dès l'enfance, même pendant l'enfance, c'est quelque chose qui est contesté. J'ai lu beaucoup de livres, je vois beaucoup de podcasts sur tout ce qui est des histoires de criminels, quoi, des histoires vraies de criminels, et on peut dire que c'est même un mystère. Pourquoi, heureusement, tous les enfants maltraités ne deviennent pas maltraitants une fois adultes, heureusement, tu vois. Mais encore moins, tu deviens maltraitant. Maltraitant, c'est pas comme insensible, d'ailleurs. Tu peux être, effectivement, te dire, pour te protéger, tu essayes de prendre de la distance, ok. Mais que tu maltraites, je pense que ça tient à ton caractère de connard, quoi. Moi, c'est mon diagnostic personnel, mais bon, voilà.
Oui, en même temps, on pourrait dire même que toute personne maltraitée ne s'identifie pas forcément à son maltraiteur.
Oui, voilà, c'est un peu ce que je voulais dire, effectivement.
Alors, tous les étudiants en médecine croisent des professionnels respectueux, aides-soignants et infirmières, sages-femmes, orthophonistes, médecins, qui leur enseignent leur métier. J'ai eu moi aussi la chance d'en croiser et je leur dois beaucoup. Leur qualité n'avait rien à voir avec leur statut, elle découlait de leur personnalité et de leur attitude. Ces femmes et ces hommes se comportaient en soignants. Malheureusement, plus une structure est hiérarchisée et compétitive, plus elle favorise l'ascension et la suprématie d'individus qui aiment la compétition et la lutte de pouvoir.
Bah jusque-là, je suis complètement d'accord, oui.
Au sommet de la pyramide hospitalo-universitaire française, l'une des plus hiérarchisées d'Occident, on rencontre donc beaucoup plus d'hommes et de femmes de pouvoir que de soignants et d'enseignants bienveillants. Or, rappelons-le, le pouvoir est incompatible avec le soin, a fortiori avec l'enseignement du soin. Le sentiment de supériorité inconscient ou revendiqué par de nombreux médecins s'exerce aussi sur les autres professionnels de santé. Les facultés de médecine suggèrent en effet aux futurs praticiens qu'ils valent mieux que tous les autres. Ainsi, les cours donnés aux médecins par des infirmiers et des infirmières, des sages-femmes ou des orthophonistes sont rares, pour ne pas dire inexistants. En revanche, dans la formation de ces professionnels, les cours donnés par les docteurs, ceux qui savent, sont monnaie courante. De plus, si les connaissances médicales sont acquises par assimilation de notions livresques, le savoir-faire et le comportement le sont plutôt par émulation et imitation. L'apprentissage, entre guillemets, au lit du patient, consiste pour l'étudiant à copier son attitude et ses gestes sur ceux du résident ou du praticien hospitalier qui lui servent de mentor et donc de modèle de rôle. Si celui-ci se comporte avec la même morgue et le même mépris qu'un marquis de Louis XIV, l'étudiant se trouvera devant un dilemme, ou bien il rejette cette attitude et court le risque de ne rien pouvoir apprendre de la part de ce praticien-là, ou bien il choisit d'absorber ce que son maître, entre guillemets, lui montre, avec cette fois le risque d'adopter lui aussi des postures inacceptables. Au cours d'un de mes premiers stages dans un service de soins chroniques, j'ai assisté à la scène suivante. Le chef de service, enseignant abordable et très ouvert à nos interrogations, nous avait réunis autour d'un patient âgé, plongé dans un coma profond. Après avoir expliqué les accidents vasculaires qu'il avait mis dans cet état, notre patron déclara « Demain matin, nous disséquerons ensemble une veine du pied pour poser une perfusion. » Surpris, je demandais « Je ne comprends pas, la perfusion que ce patient porte au bras fonctionne parfaitement, et si elle se bouchait, on pourrait lui en poser à l'autre. Pourquoi disséquer une veine de son pied ?»« Eh bien, pour vous montrer comment faire !» Au grand effroi de mes camarades, je répondis « Alors je regrette, monsieur, mais je ne serai pas présent. » Le praticien me regarda avec de grands yeux avant de soupirer. Vous avez raison, il n'en a pas besoin, c'est une mauvaise idée. Cet homme qui m'a par ailleurs beaucoup appris était l'un des médecins les plus humains que j'ai rencontrés. Il était aussi notre enseignant de médecine légale et de déontologie. Le fait qu'il ait pu, l'espace d'un instant, oublier que le patient allongé devant nous était un être humain et non un objet d'expérimentation ou de démonstration, nous en dit long sur les effets pervers de l'univers hospitalier. Confronté à la double mission de soigner et d'enseigner, les professionnels les plus attentifs ne se rendent pas toujours compte du conflit d'intérêts manifeste entre les deux. Le patient est là pour être soigné, il n'est pas là pour servir de mannequin de démonstration. 40 ans plus tard, les problèmes sont les mêmes, car les institutions n'ont pas changé et tous les praticiens ne tendent pas l'oreille aux interpellations des étudiants.
Je veux bien croire. On peut peut-être passer une petite musique quand même. Qu'est-ce que tu as à nous proposer?
Le même groupe que la semaine dernière.
Tu veux dire Courge?
Tout à fait.
Oui, donc Courge, je rappelle, c'est le groupe de Matt Conture, le dessinateur anarcho-punk, dont on trouve les BD autobiographiques à la librairie Publico, en particulier Sclérose en plaques, où il raconte c'est tout ce qui se passe autour de sa sclérose en plaques. Voilà, Matt Conture et le groupe Courge.
C'est clair, ça.
J'en ai plus cassé de cette tonne de papier jetée en gaspillé en publicité. De bois, un œil à gauche, un œil à droite. Allez, vas-y, coco, à toi. La fumée monte en ligne droite, mais là-bas, au bout de l'allée, apparaît l'eau qui est redoutée. Le joint expire sous le talon. L'ultime bouffée sort du poumon. Pour un petit joint, c'est l'attaque. Baisse la tête, la lame attraque. Et si c'était une seringue, ils sortiraient leur fringue. Je m'en fous quand je serai grand. Fini le froid du petit banc. J'irai au bistrot boire du blanc. Au chaud avec les autres gens, dans les jardins urbains, les gros flics attaquent, les gros flics matraquent, les petits fumeurs de joint, sur les grands bancs de bois, un œil à gauche, un œil à droite. Allez, vas-y, coco, à toi. La fumée monte en ligne droite. Et là-bas, au bout de l'allée, apparaît le kiki redouté. Les gens tirent sur le talon. L'ultime bouffée sort du poumon. Pour un petit joint, c'est l'attaque. Baisse la tête, la lame attraque. Et si c'était une seringue, il sortirait. Pour un petit joint, c'est l'attaque. Baisse la tête, la lame attraque. Pour un petit joint, c'est l'attaque. Baisse la tête, la lame attraque. Pour un petit joint, c'est l'attaque. Baisse la tête, c'est la lame attraque. Pour un petit joint, c'est l'attaque. Baisse la tête, la lame attraque. Pour un petit joint, c'est l'attaque. Baisse la tête. Le froid du petit vent qui réduit trop par du blanc au chaud avec les autres gens.
Ça fait manger, ça fait grandir, ça fait rafraîchir.
Tous les matins, le long des rues, je me fous le cul par-dessus tête. Je trouve ma vie dans le détritus et j'y fais même des galipettes. Dans les poubelles, il y a des trésors, des belles arêtes, des os de poulet. Un jour, j'y ai même trouvé une espèce de bague en or. C'est un boulot très fatigant et dangereux, faut faire attention, on peut choper des petits boutons. Moi, pour fouiller, je mets des gants. Faut se lever de bon matin, l'hiver, il fait encore tout noir. Sur cette affaire, on est quelques-uns, les collègues, les chats et les grands noirs. Eux, ils prennent pas le temps de trier, ils vident tout vite fait dans la benne. Ils sont toujours emmitouflés, on voit juste leur tronche d'ébène. Une fois, il y en a un qui m'a dit, avec tout ce qu'il y a là-dedans, il y a de quoi nourrir mon pays. Les hommes, les femmes et les enfants. Dans mon pays, il n'y a pas de poubelles et il n'y a pas de déchaînés. Les éboueurs ont de grandes ailes, c'est les vautours au bec croché. Quand quelqu'un meurt dans la rue, 2 heures après, il n'y est plus. Quelques ombres planent dans le ciel, c'est un luxe, une poubelle. Je lui ai dit, tu as raison, et tout cela qui gouverne, ils préfèrent foutre tout dans la benne. Ils nous prennent vraiment pour des cons. Je lui ai dit, tu as raison, mais tout cela qui gouverne, ils préfèrent foutre tout dans la benne. Ils nous prennent vraiment pour des cons. Toi, moi, et ce qu'il y a dans la poubelle, nous sommes le caca de ces enflés. Et le jour où ce qu'on va crever, notre cercueil sera une poubelle.
Ça lui permet de nourrir ses chats.
et de payer le loyer de sa pieuvre. Elle trouve la vie moins drôle, mais on n'y peut rien.
Toujours sur Radio Libertaire, c'était Courge. On a écouté quatre chansons d'affilée, de l'une à la suite des autres. C'était Marre des pubs, Le Petit Juin, Le Clodo, Le Nègre et les Poubelles, La Vieille Pute. Et c'est toujours L'Entonnoir, émission critique de la psychiatrie. On vient de lire Les Brutes en Blanc. Peut-être qu'on va s'arrêter là ou on a le temps.
Je ne sais pas. Ça dépend. Je pensais qu'on pouvait un peu évoquer le débat à venir, donc dans le 22 février.
Oui, avec, alors oui, par exemple, on peut faire cette
voilà,
annonce.
Voilà, parce que bah, même par la même occasion, les gens ne connaissent pas forcément la présentation de ton émission. Et puis évidemment, le film. Bah, je précise que, effectivement, je suis moyennement cultivée comme Pouf, hein, dans l'ensemble, c'est beaucoup la BD. Mais effectivement, la musique de Courge, c'est pas le truc que tu vas entendre sur France Culture. Mais une autre de mes spécialités, c'est le cinéma fantastique, en particulier le cinéma fantastique des années, on va dire 70-80, et c'est le cas pour Clive Barker. Et donc, tu peux déjà lire
oui.
un peu,
bah oui, parce
un
que
peu de quoi il s'agit, ce que c'est Cabal. Je précise que j'ai pas trouvé, enfin, ça peut paraître éloigné à première vue, mais en réalité, je n'ai pas trouvé, même si c'est pas, ça coche pas toutes les cases d'un point de vue anarchiste, mais ça c'est très rare qu'on trouve des films qui cochent vraiment toutes les cases d'un point de vue anarchiste. Hein. Mais en même temps, sur l'aspect critique et surtout critique de l'idée de normalité et de la chasse à la normalité entre guillemets, il y a guère que un film de 1932 de Todd Browning qui s'appelle Freaks, la monstrueuse parade en français, en noir et blanc, donc qui en fait me paraît avoir un discours contre le tout ce qui est normativité, le validisme, l'andiphobie, puisque les rôles de cette histoire, c'est une histoire de cirque où à l'époque où les monstres entre guillemets physiques étaient exhibés dans les foires, et où le discours c'est que les monstres sont pas ceux qui sont, ils sont présentés comme très humains, et en revanche il y a des personnages prétendus humains qui eux sont vraiment sont des véritables monstres psychologiquement. Et il faut savoir que ce film a été carrément interdit parce que justement il avait un discours
inversé
contre le
par rapport à la norme,
ouais. Ouais, puis même le simple fait même de montrer parce que c'était des vrais monstres et tout de foire, de montrer premièrement de prendre leur défense, que les personnages soient réellement en 1932 quand même étaient réellement joués par des gens qui avaient c'était même pas des handicapés d'ailleurs, c'était des gens qui avaient des difformités. Des difformités réelles, et, enfin du point de vue de ceux qui voient les choses comme ça, et donc le discours anti-normatif était complètement révolutionnaire et a suscité beaucoup de levées de boucliers, bizarrement. Mmh. Mais c'est un truc très connu des amateurs de fantastique. Je vous le conseille vivement. D'ailleurs, je pense que ça doit se trouver facilement. Donc c'est La monstrueuse parade de Todd Browning, 1932. Donc ce film-là, Cabale, déjà tu vas peut-être lire la description que j'ai faite un peu du film.
Description qu'on peut lire sur le site librairie-publico.info. Mm. Donc dimanche 22 février, 16h, projection et discussion à l'invitation du groupe Libertaire d'Ivry. Qui sont les monstres ? Qui sont les monstres ? Avec la projection de Cabale de Clive Barker. Un film de 1990 et avec l'entonnoir, donc nous-mêmes sur Radio Liberté, critique de la psychiatrie, mais qui est l'émission donc
tu connais pas cette émission
des mercredis entre 9h30 et 10h30. Non, je suis en train de lire bêtement l'affiche. Ouais. Donc ce sera dimanche 22 février à partir de 16h, accueil dès 15h, entrée libre, à l'invitation du groupe Libertaire d'Ivry, à la librairie du Monde Libertaire, 145 rue Amelot, 75-011 Paris, librairie Publico, donc c'est métro République, Auberconf et Fille du Calvaire. Donc, moi, Denis, animateur de l'entonnoir sur Radio Libertaire, viendra présenter l'émission. Viendrait présenter l'émission. Et le film et la présentation seront suivis d'une discussion. Alors, qu'est-ce que c'est le film ? Cabale, un jeune homme obsédé par ses cauchemars, commet l'erreur de se confier à un psychiatre. Il finit par les rencontrer. Ses cauchemars. Dans le monde souterrain d'un cimetière où se cachent des centaines de monstres. Ces monstres apparaissent vite bien plus humains que les humains. Des flics assoiffés de massacres et tout un village de fachos prêts à flinguer des individus qui n'ont que le tort d'être différents. Clive Hellraiser Barker fait dans ce film une violente critique de l'intolérance de la psychiatrie, de la police et du clergé. Voilà pour Cabale. Alors, l'entonnoir, vous pouvez en lire les grands principes. Sur le site de Radio Libertaire, radio-libertaire.org.
Tu peux le dire quand même.
C'est... Et sur aussi anarchiste.info. Mm. Mais je vais le lire quand même. Critique de la psychiatrie comme double pratique, répressive et commerciale. La psychiatrie est un dispositif qui relève à la fois de la répression et de la médicalisation, de la répression avec le pouvoir qu'exerce l'institution sur les psychiatrisés par l'intermédiaire de médecins et d'infirmiers qui, agissant comme autant de juges et de matons, soumettent chaque mouvement de circulation des personnes sous son emprise à une réglementation rigoureuse, et ce même hors les murs des hôpitaux. En même temps, c'est un système qui procède à une médicalisation de l'individu par une action sur son système nerveux, lui imposant une consommation à vie de psychotropes pourtant dangereux, assurant au passage une constante prospérité aux grands laboratoires. Mais la psychiatrie œuvre aussi à la médicalisation de toute la société. Elle le fait à travers l'établissement de normes des comportements, d'interdits et de censures implicites, instillant à chacun et chacune une peur religieuse de la liberté de vivre. Le DSM, répertoire des maladies mentales, en est un exemple visible, un exemple visible d'un tel outil de médicalisation de nos vies. L'entonnoir fait aussi une critique du système médico-social en tant que prolongement de l'institution psychiatrique. Comme elle, historiquement au service de la bourgeoisie, il cherche à réserver une main-d'œuvre en bonne santé et surtout à la contrôler et à lui inculquer ses valeurs. À l'aide de témoignages, de reportages, d'ouvrages et d'articles, nous voulons informer pour remettre en cause la psychiatrie et le monde qui va avec. Donc voilà, donc ce sera dimanche 22 février, 16h. Qui sont les monstres à la librairie Publico, 145 rue Amelot, métro Oberkampf, Fille du Calvaire ou République.
On peut préciser que c'est pas la première fois. D'ailleurs, je te le dis carrément, on ne fait jamais, le groupe Libertà d'Ivry ne fait jamais de conférences. Jamais, jamais, jamais. C'est un principe, quoi. Mais sauf avec toi, parce qu'on ne peut pas dire que c'est quelque chose qui induit avec toi un rapport professeur-élève, quoi. Qu'il y a vraiment, alors que c'est quelque chose qui nous a toujours dérangé à une époque, on le faisait, et puis ça a fini vraiment par nous déranger, quoi. Les gens osaient seulement poser poliment une question, c'était des gens qui avaient des, souvent, pour pouvoir être invités, il faut avoir un statut, on parle du statut de médecin et tout dans les bouquins, mais enfin, il faut avoir des diplômes, il faut avoir un statut de spécialiste de ceci ou cela, et ça induit un rapport unilatéral, on va dire. Alors que on te connaît suffisamment pour savoir qu'avec toi, c'est pas comme ça. Les gens discutent avec toi, mais ils discutent aussi entre eux, ils s'expriment. Et c'est ça que nous, on recherche dans les discussions, en fait. C'est pour ça qu'on appelle même pas ça un débat, mais une discussion, parce que c'est ce qui nous intéresse nous-mêmes. Enfin, toi aussi, je suppose, c'est de pouvoir faire connaissance avec les gens et qu'eux aussi ils fassent connaissance entre eux. Hein. Et c'est ce qui se passe généralement quand justement tu n'institues pas un rapport professeur-élève. Et voilà, avec toi, c'est comme ça que ça s'est passé. On avait fait quoi comme autre débat? Qu'est-ce que tu avais? Il y avait Bon Pied, Bon Oeil et Toute Sa Tête, un documentaire.
Un documentaire des années 70. Qui était tout à fait critique aussi des institutions psychiatriques et qui mettait en valeur, enfin, qui montrait des handicapés méchants.
Hein, oui, voilà. Mais c'est, qui s'auto-appelait comme ça, pour de vrai.
S'auto-appelait comme ça, oui, c'est pas nous qui.
C'est pas toi qui dis qu'ils étaient méchants.
Voilà.
Et puis, t'avais eu d'autres idées? Je crois, une espèce de débat à la télé sur la psychiatrie, justement.
Il y avait un débat, c'était une émission d'Apostrophe qui invitait, disons, déjà une personne à témoigner. Il y avait aussi Gérard Hoff qui avait fait une apparition, et d'autres personnes.
D'ailleurs, on a fait aussi un débat où tu as lu, où tu as présenté le livre de Gérard Hoff, Je ne serai plus psychiatre, qu'on a d'ailleurs aussi lu quasiment en entier, si ce n'était pas en entier à l'antenne.
On a lu de larges extraits.
De Gérard Hoff, donc on peut que conseiller Je ne serai plus psychiatre, qui en revanche est encore disponible et que vous pouvez commander à la librairie du Monde Libertaire. Voilà.
Et puis, eh bien voilà. Ben...
On a fait le tour. Notre carrosse se change en citrouille.
Oui, en courge même, on pourrait dire.
Oui, c'est vrai.
Et du coup, voilà, ainsi se termine notre émission pour cette semaine. Nous vous disons à la semaine prochaine. Au revoir.
It just doesn't work out the way I want it to. And I get real frustrated. And like, I try hard to do it. And I take my time, but it just doesn't work out the way I want it to. It's like I concentrate on real hard, but it just doesn't work out. And everything I do and everything I try, it never turns out. It's like, I need time to figure these things out. There's always someone there going, hey Mike, you don't even notice that you've been having a lot of problems lately, you know? Maybe get away. And like, maybe you should talk about it, you'll feel a lot better. I go, no, it's okay, you know, I'll figure it out. Just leave me alone, I'll figure it out, you know, I'm just working on myself. They go, well, you know, if you want to talk about it, I'll be here, you know, and you'll probably feel a lot better if you talk about it. So why don't you talk about it? I go, no, I don't want to, I'm okay. I'll figure it out myself. And they just keep bugging me, they just keep bugging me, and it feels on the side. It's got me, it's too tight, so come and pray with my side. You won't have it, then I'll pray with you, just feel me. I'm not drinking, here's the dessert. You're the one who's drinking, here's the dessert. You're trying to be drinking, here's the dessert. They take me in and in soon, cause everybody only soon. You give me the professor, I'm just taking from the enemy myself.
in my room. And I was just like staring at the wall, thinking about everything. Instead of, yeah, I was thinking about nothing. And then my mom came in, and I didn't even know she was there. She called my name, and I didn't hear her. And then she started screaming, Mike, Mike. And I go, what? What's the matter? She goes, what's the matter with you? I go, isn't that wrong, Mom? She goes, don't tell me that. You're on drugs. I go, no, Mom, I'm not on drugs. I'm okay, I'm just thinking, you know? Why don't you give me a Pepsi? She goes, no, you're on drugs. I go, Mom, I'm okay, I'm just thinking. She goes, no, you're not thinking, you're on drugs. None of people don't act that way. I go, Mom, just give me a Pepsi, please. All I want is a Pepsi. And she wouldn't give it to me. All I wanted was a Pepsi, just one Pepsi. And she wouldn't give it to me, just a Pepsi. Keep my shirt with my feet, got me back to see a seat. Got me up, just lay me, it's a good damn straight. Oh, no, I'm saying that, here's the decision. You're the one that saved me, here's the decision. You got to be crazy, here's the decision. I think in and it's true that it was the only solution to get me from the sun, protecting from the enemy myself. I was sitting in my room. My mom and my dad came in. They pulled up the chair and they sat down. They go, Mike, we need to talk to you. I go, okay, what's the matter? They go, me and your mom, we noticed lately you've been having a lot of problems. And you've been going off for no reason. And we're afraid you're gonna hurt somebody. And we're afraid you're gonna hurt yourself. So we decided that it would be in your best interest if we put you somewhere where you can get the help that you need. And I go, wait, what are you talking about? We decided. My best interest? How do you know what my best interest is? How can you say what my best interest is? What are you trying to say? I'm saying